retrouver toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. Et si je vous proposais un petit échange autour d'un thé? Mais avant ça, je vous propose de faire connaissance avec notre plateau. Elvira, comment tu vas?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Alors, je suis Elvira Douala, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Et j'anime des ateliers sur le thème de l'amour et de la sexualité en France et en Afrique.
Merci Elvira, je sens que ça va être mouvementé aujourd'hui. Salut Flo, comment tu vas Florinda?
Ça va super et toi?
Très bien, est-ce que tu veux bien te présenter?
Yes, alors je suis personal branding stratégiste et donc j'accompagne des dirigeantes pour qu'elles deviennent des voix et des visages de référence dans leur industrie.
Très bien, tu es au bon endroit puisque c'est un podcast, donc on va entendre ta voix toi-même.
Tout à fait.
Et puis on les présente presque plus, nos chroniqueurs préférés. Aboubacar, comment tu vas?
Très bien, et vous?
Ça va, merci. Alors, tu te présentes?
Aboubacar Sakanoko, Transmission 91, la récré, disons-nous les choses.
Merci Aboubacar. Et Anne Barberiche, est-ce que tu veux bien te présenter?
Barberiche, chroniqueur de cette magnifique émission. Je l'ai dit toute l'année, mais je le pense vraiment. Producteur aussi de la récré junior et fondateur du média Diva.
Merci. Alors du coup, c'est le moment de lancer la thématique. Aujourd'hui, l'idée, vous avez entendu le parcours d'Elvira, hein, si on a une sexothérapeute parmi nous, on peut pas se passer de parler relations affectives, éducation et sexualité. Et du coup, la première question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
On va renverser la table ou pas? La première question que je vais vous poser, c'est quand on dit relations affectives et sexuelles, qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous avez vu ce silence?
Canal Plus.
Canal Plus, quand c'est brouillé, là?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que les jeunes ne connaissent pas Canal Plus brouillé.
Non, en fait, parce que relation affective et sexuelle, moi, le terme relation affective, en fait, je l'ai découvert très tard, adulte. Donc, c'est pour ça que celui qui me parle le plus, c'est relation sexuelle. Du coup... Donc, pourquoi référence à Canal Plus? Parce que c'était la chaîne qui diffusait des films pour adultes.
D'accord.
Crypté. Et nous, on regardait Crypté.
C'est-à-dire, en gros, tu voyais rien, quoi.
On voyait rien.
Et t'entendais rien, d'ailleurs.
On était petits. Mm. On imaginait.
Bouba, il rigole parce qu'on dirait le cryptage, là, toi-même, t'es passé par là ou bien?
Non, mais je me souviens qu'on disait qu'avec un... Tu vois, les papiers de bonbons, là. Genre, tu regardes, tu vois, oh ça a décrypté, tu vois.
Non, mais blague à part, en fait, j'ai délibérément choisi cet exemple-là parce que c'est vrai que nous, il y avait cette, pudeur, cette innocence, cette insouciance aussi, avec ce rapport au sexuel, en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, pour en même temps donner une petite anecdote.
Merci Barberiche. Florinda?
Moi, je dirais qu'il y a masse d'informations, mais à la fois, c'est difficile, je pense déjà dans le foyer, au sein du foyer, dans beaucoup de foyers, d'en parler, parce que ça fait tabou. Et du coup, même si on a masse d'informations, on se retrouve perpétuellement avec des gros points d'interrogation. Et on ne sait pas ce qui est différencié du vrai et du faux, donc on apprend sur le tas. Quoi.
Ouais, c'est trop vrai.
Heureusement pour certains, et puis malheureusement pour d'autres.
Merci Florinda. Elvira? Ah non, attends, on va garder Elvira pour la fin, parce qu'après tu vas nous donner un peu ton expertise aussi en D'accord. tant que professionnel du sujet. Okay. Aboubacar?
Moi, je parlerai de tabou, hein, comme toi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le silence... Après la question, il était dû au fait que moi-même, je cherchais mon inspiration.
Vraiment.
Et du coup, tu m'as inspiré.
Merci.
Mais en vérité, c'est ça. C'est les... Dans bon nombre de familles, c'est tabou tout ça. C'est les relations affectives. Alors, les relations sexuelles, n'en parlons même pas. Parce que même aujourd'hui, en 2024, il y a des familles. Jamais on va se poser dans un salon ou quelque part pour en parler. Et je pense que ça se fait dans l'intimité. Après, les relations affectives, notamment intrafamiliales, les mamans. Tu vois, lorsqu'elles sont des mamans douces, elles sont très affectives et très... Elles accompagnent, quoi, tu vois.
Juste la place du papa aussi, faut pas oublier.
Oui, oui, c'est ça, oui, papa. Et bon, les papas.
Important pour la construction de tout un chacun, un homme comme une femme.
Le truc, c'est que certains, le truc, c'est que certains de nos papas n'ont pas eu de comment dire, assez d'affection et ont peut-être du mal, mais il y en a d'autres, même s'ils n'ont pas reçu énormément d'affection, ils en transmettent. Moi, j'ai connu des papas qui réunissaient leur famille et disaient à tous leurs enfants, je vous aime. Et ça, c'est important, je pense.
Ça envoie d'extinction, je crois.
Elvira, est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, nous donner ton ressenti à toi en tant que Elvira, fille, femme, de, et ensuite peut-être un point d'expertise.
Alors moi, en tant que fille, femme, j'ai envie de te dire que ça a été aussi compliqué pour moi de pouvoir trouver ce qu'était la sexualité. Et les relations affectives, parce que justement, comme vous l'avez tous super bien dit, on nous a pas appris. Donc, il est possible que quand on n'a pas appris certaines choses, parce que quand on apprend, enfin, l'enfant se construit avec l'image des parents, ce qu'il entend, ce qu'il voit, et quand on voit pas nos parents se faire des bisous, quand on voit pas nos parents justement avoir de l'affection l'un envers l'autre, parce que justement c'est tabou et que ils ont un peu cette pudeur de faire ça devant les enfants. Et ben nous, on sépare et puis finalement, on se cale à ce qu'on voit à la télé, les films romantiques et les films porno. Hein, voilà. Et on va chercher ce qu'on nous a pas appris via les réseaux sociaux, via les films porno. Et comme le disait
Florinda,
ben on prend ce qu'il y a à apprendre et des fois, tout n'est pas bon à prendre. Mmh. Voilà. Et moi, là où je veux attirer l'attention, c'est effectivement les films porno. C'est là où on a fait notre éducation sexuelle. Comme on n'a pas eu nos parents pour nous parler, ben on va se caler aux films porno, on va faire des choses qui ne sont pas forcément dans la réalité, parce qu'il faut savoir que les films porno, c'est à but masturbatoire et non éducatif. Et le problème, c'est qu'on s'est pratiquement tous éduqués avec les films porno. Donc voilà.
Non, pas moi.
Bah, toi, c'était crypté. moi, j'aimerais aussi rajouter peut-être la cour d'école, parce que il y a aussi ce qu'on se dit entre pairs, c'est-à-dire tu parlais tout à l'heure de points d'interrogation, mais justement, est-ce que les réponses, on va pas les chercher auprès de nos amis, dans la cour de l'école, et puis un peu plus tard au collège, au lycée ou à la fac, avec ceux qui ont expérimenté, ceux qu'on voit comme des sachants. Et du coup, selon avec qui tu traînes, peut-être que les conseils ne sont pas les mêmes. Mais on y reviendra plus tard. En quoi, selon vous, c'est crucial de justement poser cette thématique et de mettre des mots sur justement l'importance ou pas d'éduquer et de poser la thématique. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que à l'école, en France, c'est obligatoire, normalement, les ateliers de relations affectives. Et pourtant, il y a plein de parents qui s'opposent à ça. Alors, du coup, en quoi c'est crucial? Et selon vous, pourquoi c'est polémique?
Moi, je dis que c'est polémique parce que, pour certains, ça fait référence à eux, à leurs incompréhensions, à leurs tabous, à leurs peurs, à leurs craintes et à leurs méconnaissances aussi. Je pense que moi, j'ai aucun problème à ce que qu'il y ait ce genre de cours à l'école. Maintenant, c'est comment ils vont être dispensés.
Et je pense que c'est là où les gens...
Et par qui?
Et par qui?
Parce que moi, j'ai vu... certaines méthodes, moi, que je trouvais en mettant en place ce genre de cours, on essaye de prévenir certaines choses en réalité, parce que je pense que l'émission on va en parler, parce que ça cause des traumas, je trouve, le fait qu'il n'y ait pas eu de cette éducation à tout ce qui est affection, tout ce qui est sexuel, de l'ordre du sexuel. Moi, pour moi, après, ça crée des traumas à l'âge adulte, mais c'est la manière dont on va dispenser les cours, moi, qui
inquiète.
Ouais, qui est questionnant pour moi.
Ok, les autres?
Alors moi, je pense que c'est important d'éduquer les enfants. C'est une bonne idée de la part de l'éducation nationale de l'introduire. Mais je pense en tant que parents, on a aussi notre part à faire, ça c'est sûr. Et des petits, et pas non plus attendre qu'on ait 14-15 ans au moment où les hormones sont au plus haut. Non, je pense qu'à partir de même 2-4 ans, on peut essayer de voir avec l'enfant d'introduire un petit peu le nom justement des membres, enfin des parties du corps, en nommant correctement, pas le zizi ou voilà, vraiment en disant tu as un pénis, tu as une vulve, ce qui j'ai envie de dire dédramatise un petit peu le fait que oui, ben t'as un sexe et ça n'est pas sale, ton sexe n'est pas sale, c'est le tien. Effectivement, il faut après en fonction des cultures, etc., il faut pouvoir se préserver en fonction de ce qu'on veut apprendre à ses enfants. Mais c'est important de se dire que ta partie de ton corps n'est pas sale. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'à partir de, on va dire, 5-7 ans, commencer à introduire la reproduction en ayant un langage adapté à l'enfant. Et puis, petit à petit, à la préadolescence, justement parler des changements hormonaux, parler justement de consentement, de relations affectives. En fait, je pense qu'il faut avoir un train d'avance sur ce qui va arriver à l'enfant. C'est important pour qu'il sache ce qui va lui arriver en termes de transformation de son corps.
Merci pour ça, parce que moi, à mon époque, on est tous nés dans des choux. Et les choux, c'était pas nos parents. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ma mère qui m'a dit que j'étais née dans un chou, mais c'est déjà une expression qui était au sein de l'école, dans les livres, on était nés dans des choux. Genre, c'était et merci aussi d'insister sur l'élément que le sexe, la partie du corps n'est pas sale. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, les petites filles ou les petits garçons ont l'impression que c'est sale. On n'aime pas, c'est sale, on n'en parle pas, et même quand ils en parlent, on leur explique pas pourquoi. Bah, on peut pas dire ça dans tel contexte, on leur dit juste, ne dis pas ça. Et tu parlais de petite enfance, d'ailleurs, il y a beaucoup de situations où, dans le cadre des cafés des parents, les parents se questionnent sur des enfants de maternelle qui, pour eux, ont des gestes qui sont sexués, alors que pas du tout, ils découvrent leur corps. Ils baissent leur culotte devant tout le monde, ils parlent de leur zizi, certains font pipi au milieu de la classe, enfin. Et tout ça est ramené à quelque chose de très sexuel, alors que, au départ, c'est pas du tout le cas. Pour un enfant de 3, 4 ans, il monte ses fesses, il a pas envie de quoi que ce soit, il monte ses fesses.
Alors, je vais vous partager quelque chose, mais je pense que je peux. Il faut savoir que, en parlant de masturbation infantile, c'est quelque chose de naturel. L'enfant va explorer son corps. Et ça passe aussi par la masturbation. Au début, ce n'est pas quelque chose, c'est pas des pulsions sexuelles, c'est vraiment de la découverte de son corps. Et même ça, c'est compliqué chez certains parents d'expliquer à son enfant que oui, c'est naturel, mais il faut pas forcément le faire n'importe où. Hein. Et puis, il y a ce côté-là où, comme disait...
Barberie,
c'est ça ? C'est que, en tant que parent, on ne nous a pas appris non plus. Les parents n'ont pas été éduqués, donc pour eux, c'est très compliqué de pouvoir transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Donc moi, j'invite les parents, en tout cas, de s'informer, de venir à des ateliers, de regarder sur Internet, sur de bons sites de parents, pour pouvoir accompagner l'enfant dans sa sexualité, dans la découverte de la sexualité.
Aboubakar ?
Moi, je crois qu'on vit dans un paradoxe, parce qu'en vérité, il y a du sexe partout, tu vois, dans les médias, dans les séries et partout. Mais dans les familles, en tout cas dans certaines familles, et même, je crois, dans bon nombre de familles, on parle de sexe nulle part. Tu vois. Et en fait, même le plaisir sexuel, c'est un tabou, en vérité.
C'est un vrai tabou.
C'est-à-dire, on en voit, mais il ne faut pas qu'on en parle. Tu vois. Et voilà, je crois même, pour rejoindre un peu vos propos, voilà, c'est, dans les écoles et dans le cadre scolaire, en tout cas, voilà, j'espère qu'ils ont trouvé la bonne manière d'en parler. Après, je ne suis pas là pour, personnellement, pour... Dis-moi.
Je ne dirais pas qu'on n'en parle pas. On en parle, mais c'est interdit, justement, de pratiquer. C'est interdit. On va plus en parler dans l'interdiction, dans le fait que ce soit mal, dans le fait que ce soit bah, pas bien en fait. C'est quelqu'un, c'est de la dépravation, la sexualité, c'est pas bien. Mais on en parle parce que c'est vrai que j'ai souvent animé des ateliers où il y avait justement des femmes de confession musulmane et elles me partageaient qu'on parle beaucoup de sexualité, mais on parle de sexualité pour dire que c'est interdit.
Bah, excuse-moi, Bouba, mais dans ce que tu dis, Elvira, c'est dans toutes les religions quasiment, il y a aussi quelque chose qui amène les familles à perpétuer cet interdit face au sexe avant, avant le mariage. Et du coup, pour s'en assurer, eh ben, on va plus parler sous le prisme de l'interdit en usant de toutes ses formes. C'est interdit, c'est sale, c'est pas normal, c'est pas bien, tu seras une mauvaise personne, respecte-toi. On va mettre tous les interdits et tous les mots qui font que on ose espérer que l'enfant, au moment où il se pose la question, il se dit « Ah non, c'est pas... Ah non, 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 j'ai pas le droit. Non, non, c'est sale. Ah, c'est dégueulasse. Ah. » Et c'est important. Et t'as parlé notamment de masturbation infantile. On parle même pas encore de la masturbation chez les adultes. Mais tu vois, c'est un sujet qui, au-delà d'être tabou, est presque innommable.
Oui.
Innommable. Oui, comme si, compliqué. Même de s'avouer à soi-même qu'on l'a pu le pratiquer ou se questionner,
c'est très
mais ça se dit même pas. Genre, il y a un bouton reset, oui. Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe
pas.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normal? Ouais. Je suis sale?
Je suis
dépravé? Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Tu sais quoi, moi, je viens de découvrir, il y a peu, que... On en parle, mais c'est surtout les femmes, c'est-à-dire les mamans qui transmettent à des femmes, à leurs filles, la manière dont elles devraient s'y prendre avec leur mari. Même
mais
sexuellement,
bien plus tard.
En fait, au moment où elles arrivent au mariage, ouais, et toutes ces choses-là, elles expliquent comment tu dois même satisfaire son mari. Exactement.
C'est
oui, tu dois prendre tel aphrodisiaque, ouais, quand tu bouges. Et ça, je l'ai découvert là, il y a peu, là. Je ne savais même pas, moi, tout ça. Mais... À côté, d'où les hommes.
T'es bizarre, toi.
Pourquoi tu lui dis ça? Tu crois qu'il s'est caché sous un lit pour entendre les conversations?
Parce que c'est une conversation de femme et lui, il dit j'ai appris ça.
Mais peut-être qu'une femme lui a expliqué.
La sexualité, c'est à deux. C'est bien de savoir ce qui se passe,
ouais,
de l'autre côté aussi.
Ah, mais on me l'a dit, oui, en fait, nos mères, elles viennent, elles nous disent ça, tac. Mais nous, les garçons, enfin, en tout cas, de certaines cultures, rien. Enfin, en tout cas, moi,
je crois même pas que ça soit
qu'une
connaissance. Culture. Je crois vraiment que c'est universel.
C'est comme si peut-être nos pères, je les vois pas s'asseoir, nous expliquer, rien, on nous a rien dit, nous, rien.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, par exemple, de différencier entre les filles et les garçons? Je te regarde, Florinda, mais genre le garçon, même sans lui expliquer, très rapidement, on va lui faire comprendre que, ouais, vas-y, t'es un bon fils, ouais, t'es comme papa, ouais, ah ouais, ça c'est mon fils, ça. Même sans le nommer, que ça soit de la première petite copine, première amoureuse, premier regard qui se perd, tu vas faire les boutiques et tu t'observes ton enfant qui suit de regard à une jeune fille. Ah, t'es bien mon fils, toi. Alors que chez la fille, c'est complètement autre chose. Ne serait-ce que le premier petit ami. Alors après, il y a des façons différentes d'accompagner la relation affective, mais c'est tout de suite la crainte, la peur. Elle a son premier petit ami, wow. Enfin, tout se chamboule, et c'est un peu ce que tu disais, comme si, à ce moment-là, c'est trop tard. Tout ce que tu voudrais lui dire, ou lui expliquer, eh ben, c'est trop tard. Tu sais pas si c'est déjà fait ou pas, t'en parles, mais t'en parles même plus au conditionnel, tu sais même plus quel terme,
ouais,
et puis l'adolescent en face, c'est gênant.
Ouais.
En fait, ce que tu dis, excuse-moi, vite fait, je voudrais rebondir, c'est qu'il y a une différence d'éducation entre les filles et les garçons.
Oui.
Et généralement, les garçons ont droit à des choses auxquelles les filles n'ont pas le droit. C'est-à-dire, comme tu dis là, c'est bien mon fils, c'est bien. Encourager son fils, ouais, des papas qui sont contents que leur fils soit un don Juan.
Soit ce qu'ils n'ont pas
fait,
été.
En fait, il y a une différence d'éducation entre les filles et les garçons, et il y a une différence de tolérance entre,
ouais,
les filles et, ouais, les garçons.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Florinda?
Oui. Effectivement, je voudrais revenir sur ce que tu as énoncé. L'idée, c'était de. Enfin, ce qui est intéressant et à la fois malheureux, c'est que la fille se construit vraiment dans le devoir. C'est toujours par rapport à l'autre, il n'y a pas d'individualité de la fille. Alors qu'effectivement, bon, globalement, j'entends, pour ce qui est du garçon, c'est quand même le rapport à lui, beaucoup d'ego aussi, le rapport à son ego en tant qu'homme, de ce qu'il doit prouver, de ce qu'il doit montrer, mettre sur la table, du fait que ses actions sont égales à, entre guillemets, à son quota de virilité. Et ben malheureusement, pour les filles, il y a moins de place effectivement qui est laissée à la construction de sa personne. Et pour revenir tout à l'heure à ce que vous disiez par rapport au corps, moi je sais que quand j'étais plus jeune, donc quand j'ai eu ma deuxième sœur, il y avait quelque chose qui m'intriguait. À chaque fois que ma mère allait doucher prendre le bain à ma petite sœur, elle lui parlait tout le temps. Elle dit, bah écoute, là, on va aller prendre le bain, maman va te doucher, tu vas te laver les cheveux, etc. On va prendre soin de toi, après le massage, bref. Et une fois, je lui ai demandé, maman, pourquoi tu lui détailles tout ce processus-là? Elle fait, bah pour chacun de mes enfants, en fait, je prends le temps d'expliquer parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre un enfant et le poser dans le bain comme ça, ce n'est pas un mécanisme. On prépare l'enfant, effectivement, à prendre conscience que bah, ce moment-là, ça va être bon pour lui, qu'il va pouvoir découvrir son corps, effectivement. Donc, des fois, on touche les pieds, des fois, ça va être les fesses, le ventre, etc. Les mains, je découvre qu'il y a les mains. Et en grandissant, je me rends compte, effectivement, l'importance, en grandissant ou en vieillissant, je me rends compte, effectivement, que de pouvoir laisser la place à la découverte de son corps, effectivement, ça laisse la possibilité à la fille de pouvoir créer son individualité. Et dans son rapport à l'autre, comprendre qu'il y a le rapport à soi, qui est important, qui joue et qui fait une différence. Et qu'effectivement, s'il n'y a pas un bon rapport à soi, il n'y a pas une connaissance de soi, malheureusement, bah, les relations vont être compliquées.
Est-ce qu'on peut applaudir sa maman?
Merci.
C'est pour ça qu'elle est si douce, cette jeune fille. C'est ça, Anne.
Et comment tu veux que je passe après cette masterclass? C'est compliqué.
Non, mais justement, mais l'idée, c'est qu'il y ait plein de points de vue en fonction aussi de nos vécus et comment nos parents ont fait avec nous. Parce que la question qui suivait, c'était est-ce que vous-même, vous avez été éduqué à la relation affective dans
non,
un premier temps?
Non. Après, c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'ai arrivé à un certain âge, j'ai l'impression de ne plus avoir eu d'affection.
Ah. C'était le sujet de Parole de fille.
Franchement, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as posé la question en introduction, sexuelle et affective, en fait, j'ai essayé d'aller piocher dans mes souvenirs, mais c'était très compliqué. Parce que je sais que j'ai l'impression que dès que je suis rentré à l'école, après, c'était terminé. C'est-à-dire que j'avais plus ce rapport où on allait me faire des bisous. On allait me tenir dans les bras, tout ça.
Est-ce qu'il y a eu un événement, on ne va pas rentrer en thérapie non plus, mais est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui a fait que...
Non, pas forcément un événement, mais je pense que l'entrée à l'école a peut-être... peut-être que l'entrée à l'école, du coup, a été un marqueur.
Mmh. Et c'était au
collège ? Ça y est, c'est un grand nom.
À l'école maternelle.
Primaire. Ouais, primaire. J'ai cette impression-là. Après, peut-être que je suis en train de divaguer, mais, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, moi.
Est-ce que tu étais le premier de la famille?
Moi, je suis tout seul. J'étais
tout seul.
Ouais, tout seul.
D'accord. Okay.
Tout seul. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand on parle de relations affectives, pour moi, c'est très particulier, en fait, de parler de ça parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu ça.
C'est marrant ce que tu dis. Moi, par exemple, quand on me dit relation affective au sein de la famille, l'éducation qu'on a pu en avoir, j'ai l'impression que le paquet a été mis sur la relation fraternelle. Je m'explique. Ça veut dire que moi, je suis issue d'une famille de 7 enfants, famille recomposée. Et en fait, ma mère, elle a mis le paquet sur la relation fraternelle, sur l'importance de s'aimer, de bien s'entendre, de se respecter. Et même, par exemple, j'en parlais encore hier avec ma sœur, parce que mes deux dernières, donc de 12 et 14 ans, en ce moment, c'est chien et chat. Et celle de 14 ans, elle s'adresse à la plus petite comme si elle n'avait pas le droit d'exister parce qu'elle était plus petite. En fait, tu dois que faire, te taire, et c'est tout. Bon, elle est un peu relou. Imani, c'est pour toi ce message. Mais du coup, et on en parlait en se disant, mais c'est pas parce que c'est ta petite sœur qu'elle n'a pas le droit d'exister et qu'elle n'a pas le droit de... Il y a une différence entre le droit d'aînesse et l'envie de la faire taire à tout prix, de plus exister et de subir tout. Et moi, j'ai l'impression que cette relation affective, elle s'est beaucoup jouée dans ne tape pas ta sœur, affectionne ta sœur, protège ta sœur, sois présent pour elle. Et c'était pas forcément des je t'aime mère à enfant, mais ça prônait comme un je t'aime qui devait être transversal dans les enfants, en fait. Tu devais être dans la démonstration de l'amour pour de ton frère ou de ta sœur de façon inconditionnelle. Et j'ai l'impression que quelque part, de façon détournée, il y a quelque chose de cet ordre-là. Même au moment de la douche, quand tu prends la douche, deux, trois enfants en même temps, etc., et que ta mère est là, indirectement, il y a des signaux. Mets pas ton pied là. Tu dois pas toucher le sexe de ta sœur, tu vois. Et c'est dit sans être qualifié comme quelque chose de sexuel, mais, et puis après, la télé. Tourne-toi, regarde pas, tourne les yeux, arrêtez de rigoler.
Alors, moi je trouve que c'est mal dit, c'est mal.
Oui, c'est
détourné. Moi, pour moi, tu vois.
C'est même, sanctionné presque.
Voilà, tu vois, moi, pour moi, et je le dis souvent, je l'ai dit dans l'année, c'est que. Et je crache pas sur nos parents, mais moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites pour moi. Quand je dis mal faites, c'est peut-être pas le bon mot, mal, parce qu'ils ont fait avec leurs moyens, mais je trouve que. Comment dire? Tu vois, quand quelqu'un te dit fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça sans explication, bah tu donnes pas de sens. En fait, nos parents ont beaucoup été dans l'appréhension du jugement. Et donc, aujourd'hui, je me pose la question de les choses qu'ils ont faites, est-ce qu'ils les ont faites parce qu'ils avaient envie de les faire ou par peur du jugement?
Après, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que faut pas forcément jeter la pierre sur nos parents. Il y a ce qu'on appelle un peu c'est pas vraiment ça, mais c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire que quand on est nos parents, ils ont été jeunes aussi, ils ont été enfants, ils ont reçu une éducation, et cette éducation-là, après, je sais pas de quelle origine tu es.
Congo.
Voilà. Donc c'était en Afrique, si je me trompe pas. C'est une autre époque, c'est une autre culture, c'est quelque chose qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, en tant que parents, on a Internet, on peut se former, on a toutes les influences culturelles qu'on peut avoir ici en France, et effectivement, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Après, effectivement, je suis d'accord qu'il y a eu des manquements, qu'ils auraient pu corriger, mais quelque part, l'enfant se construit avec ce qu'il voit. Nous, nos enfants, s'ils ont des problèmes relationnels, c'est peut-être parce que, en tant que parents, nous aussi, on en a eu. En tant que papa, si on ne prend pas sa femme dans ses bras, enfin la maman de son enfant dans ses bras, en lui disant qu'elle est belle, en lui offrant des fleurs à la Saint-Valentin, en étant affectueux, en parlant justement bien d'elle devant ses enfants, même devant quiconque, l'enfant, il voit, il entend en fait. Et quand il va grandir, il va se dire, c'est comme ça qu'un homme doit traiter... doit traiter sa femme, doit traiter les femmes. Une femme qui va être très distante, qui va pas prendre ses enfants dans les bras, pas prendre son mari dans les bras. L'enfant, quand il va grandir, il va se dire, c'est mon modèle féminin, c'est mon modèle masculin. Et c'est vrai que nos parents ont eu leur modèle. Nous, on a eu notre modèle. Et toi, en tant qu'enfant, à un moment donné, tu t'es dit, après, je connais pas ton histoire, bien entendu, tu t'es dit que j'ai plus besoin d'affection. C'est peut-être le modèle parental que tu as eu qui a fait qu'à un moment donné, on t'en a peut-être plus donné parce qu'on a estimé que t'étais grand et que t'étais un garçon et que t'étais fort et que t'en avais pas besoin. Mais du coup, t'en as manqué. Donc, forcément, t'as eu des réactions. L'enfant se cale dessus, quoi.
Bien sûr. Bouba et Florinda.
Rosam.
Non, Florinda. On va régler ça plus tard. Quand je nous entends et je vous entends. Je comprends pourquoi Abou n'est pas venu s'asseoir ici. Parce qu'il allait, Abouakar, là, les bons parlés FM, parce qu'il allait se livrer ici, là.
Il était pas prêt. Même. Il nous regarde derrière la vitre.
Il nous regarde. Parce qu'il était pas prêt, là. Non, en fait, tout ce que vous évoquez, ça m'évoque le fait que les parents, ils ont un rôle crucial. En fait, pendant que tu parlais, Ami, pendant que vous parliez, j'avais des flashs de mon enfance, les rapports que j'avais avec mes frères et sœurs. Là, vous me faites voyager dans le passé là, et carrément, depuis quelque temps là, je reconstitue des choses. Tu vois, je reconstitue le parcours psychique, psychologique de mes frères et sœurs, et je vois pourquoi certains réagissent de telle manière par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à la dureté, par rapport à la douceur que certains ont eue, que certains n'en ont pas, dont certains n'en ont pas bénéficié aussi. Et je me dis, les parents, nous avons un rôle crucial. Hein, les adultes d'aujourd'hui, c'est les enfants d'hier.
Ouais.
Moi, quand je vois mon père, je le regarde et il a 73 ans. Je vois dans ses yeux aujourd'hui, j'arrive à voir l'enfant qu'il était hier. Tu vois, je vois ce qu'il essaie aujourd'hui de réparer et je vois ce qu'il. Il nous disait qu'on était petits des fois. Moi, j'ai pas reçu de assez. Je me suis fait beaucoup taper. J'ai eu beaucoup de. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'à des moments donnés, voilà, il réagissait de telle manière, tu vois. Et je le comprends. Et souvent, moi, ce que je dis même à beaucoup de gens, je leur dis, mais nos parents, ils n'avaient pas forcément les armes psychologiques pour pouvoir agir comme nous, on voudrait qu'ils agissent à l'époque. Et c'était une autre époque, hein. 80, 90, 2000, c'était des... c'est pas aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Tu vois, on était dans une autre époque, c'était pas...
C'était pas pareil.
Puis la parole se libère, les procès changent. Les analyses aussi, il y a des études qui ont été faites sur pas mal de sujets depuis. La place et la parole de la femme est valorisée différemment. Et du coup, si on prend aussi en compte, historiquement parlant, quel que soit le territoire d'où on vient, parce qu'en France, c'est très tard en fait. La place, la parole de la femme, jusqu'à très longtemps, t'étais la chose de... Tu appartenais à ton père, et puis ensuite tu appartenais à ton mari. Et puis ainsi de suite. Et tu parlais pas, et tu votais pas. Et du coup, on t'éduque à être une bonne femme. Les ateliers de couture, d'entretien de la maison, et on en passe, on en passe. Il y a juste à regarder les anciennes publicités. Il y a pas besoin d'aller si loin. Tu tapes publicité années 60, et la représentation de la femme, c'était la femme objet, hein. Ou la femme ménagère qui était là pour magnifier la maison, procurer du plaisir à son mari, être présente, être présentable, voilà. Et du coup, déjà, si on part de ce prisme-là, l'éducation, elle pouvait pas être la même que celle qu'on peut apporter aujourd'hui. Moi, je dirais que si aujourd'hui, nous, en tant que parents d'aujourd'hui, on fait pas le boulot. Là, par contre, il y aura un vrai sujet. Et nos enfants pourront dire effectivement qu'on s'est loupé. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays d'où on vient, l'évolution de la société et de la place de la femme, de façon universelle, elle bouge. Et du coup, on parle d'excision, on parle de mariage forcé, on parle de consentement. Et du coup, là, c'est important d'ouvrir le sujet avec nos enfants, de trouver... des ateliers, si on a besoin de trouver des personnes avec qui en parler, et on sait jamais comment faire, on sait jamais à quel moment ça doit être fait, etc. Mais pour autant, c'est super important. Tout à l'heure, on parlait de, ne serait-ce que à l'école, quand ton enfant revient à la maison, qu'il aime pas, qu'on le prenne par les bras, qu'on lui touche les cheveux, et c'est là aussi qu'on commence à planter les graines de la relation à l'autre. Tu peux dire à ta copine, non, ne me prends pas par le bras, j'aime pas ça, ne me touche pas les cheveux, j'aime pas. Et rien que de s'autoriser ça, c'est s'autoriser après, plus tard, dans la relation à l'autre. Puis les relations toxiques, enfin, il y a tellement de choses. La question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi aujourd'hui, ou bien plutôt, où est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut justement améliorer notre connaissance, notre curiosité en tant qu'adulte, pour mieux la transmettre aux enfants. Est-ce que vous avez des lieux que vous identifiez? Est-ce qu'il y a des endroits où les femmes peuvent questionner sur la relation affective, sexuelle de leur enfant? Quand la question se pose, on ne sait plus, voilà, on est perdu, on est pris dans l'ouragan. Parce que là, on parle de ce sujet, donc on peut pas faire l'impasse aussi sur la prostitution juvénile, qui est un réel fléau, et du coup qui peut pas être accompagné si déjà, de fait, la relation affective, relation sexuelle, c'est un tabou. Ben, on peut pas accompagner ces jeunes filles qui tombent dans la prostitution juvénile, c'est compliqué. Du coup, est-ce que vous avez en tête des lieux stratégiques où on peut questionner?
Même avant la prostitution juvénile, les filles qui mettent en avant que leur physique, leur corps.
Ouais, clairement.
Parce qu'on est beaucoup dans ça aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a deux tranchants. Il y a le tranchant où c'est vraiment très, très tabou. On n'en parle pas et ça n'existe pas. Et il y a l'autre côté où il y a les réseaux sociaux. Il y a, je ne vais pas faire de pub de site internet où on voit des jeunes.
Si tu peux, si t'en nommes trois.
J'en ai même pas un déjà. Et c'est vrai qu'on banalise la nudité, la sexualité. Et c'est des jeunes filles. Très, très, très jeune.
Très, très, très
jeune. Des fois, 9, 10, 11 ans, sur les écrans, elles ne le font pas, mais c'est des enfants, en fait. Et je pense que là où le rôle des parents est important, c'est que ces jeunes filles, quand on les interroge, parce que moi j'ai déjà parlé à une d'entre elles qui était très proche de ma fille, et je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Et elle m'a expliqué, bah je sais pas, ça m'amuse. En gros, elle a pas eu d'éducation sur ça en fait. Mmh. Ton corps, c'est ton corps. Il faut le préserver. Attention, c'est pas un business. Quoi, c'est pas un business, c'est pas. Et elle était, pour elle, c'était pas grave.
Moi, j'ai une question à te poser. Parce que tu vois, avec Bouba, nous, on travaille dans le milieu du rap, du divertissement. Et il y a une semaine, on a fait une thématique concernant les femmes qui étaient dans l'hypersexualisation. Et nous, on pense que derrière tout ça, en toile de fond, il y a quand même des traumas. Pas pour toutes, mais qu'il y a des traumas qu'on essaye de masquer par cette hypersexualisation. Et c'est vrai que sur le plateau, c'était un peu mouvementé parce que les femmes du plateau nous disaient que c'était une façon de se réapproprier son corps. Mais nous, on n'était pas totalement d'accord parce que pour nous, il y avait quelque chose d'autre derrière, de sous-jacent. Donc moi, j'aurais voulu avoir le regard d'une experte.
Alors, on n'est pas tous d'accord dessus, même dans la sphère professionnelle. Moi, je suis d'avis de dire que oui, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Pas forcément des traumas, mais quelque chose qui est ancré et c'est une façon de s'exprimer. Après, montrer son corps être à l'aise avec son corps, c'est bien, mais vouloir le montrer, l'hypersexualiser, c'est une autre chose en fait. Ces jeunes filles, enfin, en général, ces jeunes femmes. Je ne vais pas en citer, hein. Il y en a une qui me vient en tête. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, comment elle s'appelle déjà? Ruby? C'est ça, hein?
Ruby?
Ouais. Ruby, oui.
Elle est comment?
Il y a une petite stagiaire là-bas dans le fond qui fait ça.
Oui, Ruby, voilà. Bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, peut-être qu'elle va me...
qui passe souvent à la télé, non?
Ouais. Quand on regarde dans son histoire, soit c'est une personne qui n'a pas connu ses parents, soit il y a eu quelque chose avec son papa, il y a quelque chose avec l'histoire de cette personne-là où il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la composition de sa famille. Il y a eu un manque quelque part. Et c'est une façon de rechercher l'attention qu'elle n'a peut-être pas eue. C'est une façon aussi de dire j'existe en étant voyante, enfin en s'exhibant. Et quelque part, c'est vraiment essayer de retrouver de l'amour de soi. Mais c'est complètement paradoxal, hein, mais c'est une façon de vouloir se faire aimer par les autres. Et quand on n'a pas confiance en soi, peut-être qu'elles se disent bah, « j'ai rien d'autre, j'ai que ça. J'ai que ça, j'ai mon physique, au moins c'est là, c'est quelque chose de sûr, et c'est comme ça qu'on va m'aimer, c'est comme ça qu'on va m'apprécier, et c'est comme ça que je vais être quelqu'un. » Mais moi, je suis d'accord à dire que oui, je pense qu'il y a des traumas, il y a quelque chose.
Après,
après Florinda, je vais te laisser. Mais parce que là, dans la thématique, on parlait de relations affectives et sexuelles. Est-ce que ça, c'est pas la résultante de ce manque? Parce que souvent, les filles qui deviennent femmes, qui ont eu un rapport particulier ou pas avec leur père, c'est-à-dire l'absence d'un père.
Ou l'omniprésence.
Ou des attouchements ou autres font que, à l'âge adulte, la femme, elle se construit d'une manière.
Alors, je vais donner un exemple. J'ai plus les chiffres. Mais ce qu'on voit quand on est enfant, par exemple, une femme qui a vécu de la violence conjugale, enfin, une jeune fille qui a eu son père violent envers sa mère, va très souvent. Je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai plus en tête. Être adulte, à l'âge adulte, être avec un homme violent ou un PN, où il y a forcément quelque chose en fait. Ce qu'on voit étant enfant se répercute quand on est adulte. Alors, j'ai envie de dire que ce genre de comportement, en fait, c'est vraiment la carence de ce qu'on n'a pas eu, enfin de la nourriture affective qu'on n'a pas eu quand on était enfant.
Voilà. Ouais, je vais laisser Florinda en discuter, donner son point de vue.
Moi, je dirais que, après, je ne suis pas experte, mais du fait de mon analyse et de mon observation, quand on échange avec les gens ou juste les observer, c'est vrai que je pense qu'il y a deux fléaux. Effectivement, il y a le truc, comme tu disais, Barberiche, où il y a le trop est souvent synonyme du pas assez. Et du coup, quand on est dans la revendication forte de quelque chose et qu'on se voit qu'à travers ce biais-là, je pense que c'est comme... Ben, après, on n'a pas forcément besoin de partir dans l'inceste. Des fois, c'est juste ne pas avoir eu la place d'exister. Du coup, il y a la revendication de soi. J'existe, j'ai envie qu'on me voie effectivement pour pouvoir aller chercher l'attention, l'amour, l'estime, le regard des autres. Et je pense aussi, comme tu, par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, pour la jeune amie de ta fille, c'est ça ? Des fois, on fait les choses par mimétisme. Et oui. Je pense que ce qui est important, c'est très tôt de permettre à l'enfant de lui donner une clé qui, à mon sens, est... qui lui ouvrira beaucoup de portes et qui lui permettra une meilleure compréhension du monde, qu'importe les eaux dans lesquelles elle va naviguer, ou il va naviguer. Faire les choses par conscience. C'est-à-dire que... pourquoi est-ce que je décide de mettre tel ou tel vêtement ? Quelle est la réflexion que j'ai derrière ? Effectivement, après, en tant que parent, même si je ne le suis pas encore, de créer effectivement un environnement où l'enfant peut poser ses questions. Et demain, si par exemple, je dis, en tant qu'un enfant de 9 ans, dit, j'ai envie de porter ce haut-là, pourquoi est-ce que j'ai envie de le porter ? Peut-être parce que les copines font. Maman, est-ce que c'est mal ? Maman, est-ce que c'est pas bien ? Et puis, ne pas forcément en tant que parent être dire, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais. Essayer d'aller de donner les clés à l'enfant pour qu'il puisse aller puiser dans sa réflexion et trouver lui, ce qui lui permet d'être plus confortable avec lui et de pouvoir s'approprier de son identité et faire en sorte qu'effectivement il soit épanoui et qu'à un certain âge, il soit pas dans la réparation, même si on l'est tous. La réparation de certains traumas, de certains manquements.
La difficulté, moi, je dirais aussi d'un point de vue éducatif, c'est qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Mm. C'est-à-dire que même pour l'expliquer à nos enfants, pour expliquer à nos enfants la conséquence, les causes qu'on pourrait imaginer sur pourquoi cette hypersexualisation, pourquoi sur les réseaux la sexualité est devenue presque la norme, pourquoi les célébrités se dénudent autant. Il y a la question du trauma, des carences affectives, relationnelles, des maltraitances, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Et en fait, tout ça, ça vient se mélanger entre celles qui ont évolué et qui ont une revanche à prendre sur la vie, etc., qui ont vécu des traumas, ou sinon qui ne savent pas faire différemment parce qu'on a hypersexualisé leur corps depuis qu'elles sont petites, donc elles n'existent qu'à travers ça. Mais il y a aussi toutes celles qui en font un business. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de dissocier le trauma et donc le symptôme de la personne qui en fait un business. Et quand on va parler à nos enfants, on ne peut pas non plus penser que toutes les célébrités ou toutes les femmes qui se dénudent sur les réseaux ont un trauma. Il y en a certaines qui surfent juste sur la vague, il y en a certaines qui juste pensent que ça fait plus de... La dernière fois, je parlais avec Barbe Riche et il me disait, il y a un média qui tous les matins poste une photo d'une femme pour l'algorithme. Et ensuite, il enlève cette photo de femme la plupart du temps, et là, il poste son contenu. Et du coup, on en arrive à qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être visible, reconnu, etc. Donc, ça répond quand même à une carence, ce besoin d'exister, ce besoin d'être reconnu, etc. Mais au final, ce qui devient compliqué pour nos enfants, c'est comment moi, je vais expliquer à mon enfant, cette personne, peut-être qu'elle a y a un trouble. Du comportement, parce que c'est pas normal d'avoir ce besoin d'être dénudé tout le temps, etc. Et la personne qui surfe juste sur la vague. Et du coup, c'est compliqué, ne serait-ce que pour nous en tant que parents, mais aussi pour les professionnels de la santé mentale, d'identifier chez une personne, est-ce qu'il y a un trouble psychologique ou un trauma qui vient se réparer de cette façon-là avec les réseaux qui démultiplient version 1000 ce besoin d'être reconnu à travers la façon dont on se voit. Et la personne qui juste, je vais choquer ou pas ?
Dis-nous.
Juste est une chouin qui peut s'assumer que à travers la célébrité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent plaisir à montrer leur corps et à multiplier les relations affectives, sexuelles. Elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est juste comme si la célébrité te permet de l'afficher là où les autres femmes qui souhaiteraient le faire sont obligés de se murer dans le silence. Et du coup, la dernière fois, on avait cette conversation. Et pour moi, le vrai sujet, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui veut vivre sa sexualité pleinement avec multiples partenaires parce que c'est un choix et qu'elle le veut, mais qui est pas célèbre, pas reconnu, pas riche, et du coup qui doit le faire en cachette à défaut d'être traité de tous les noms, et celle qui est célèbre et qui peut exposer ouvertement sur les réseaux le fait de sortir nu, le fait de multiplier les conquêtes, à qui on ne dira rien parce qu'elle est riche, célèbre et reconnue. Et en fait, tout ça, ça vient rendre difficile l'éducation qu'on souhaite apporter et ce questionnement autour de la relation affective et sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Les garçons, ils ont posé les mains sur la table. Bouba, il hoche la tête, il a repris son stylo. Je pense que les pieds dans la tasse, c'est pour maintenant. Allez, les
non,
gars.
Non, 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 moi, comme j'ai dit, moi, j'en veux aux féministes, certaines en tout cas.
Oh my God.
J'en veux, moi.
Elvira, elle a dit, il nous a mis dans la sauce.
Non, moi, j'en veux. Non, mais moi, j'en veux. J'en veux parce que, ouais. comme tu dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que l'outrance, à un moment donné, tu dois te faire payer. L'outrance. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dis qu'une femme multiplie les conquêtes, une femme va multiplier les conquêtes.
Ou un homme.
Ouais, ou un homme. Mais après, l'homme et la femme, c'est pas pareil.
Waouh, fais attention.
Non, attention.
Non, mais la visibilité ne questionne pas de la même façon.
Non, attention, c'est même pas la question de visibilité, c'est une question d'émotion. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe que, par exemple, un homme qui va multiplier les conquêtes, on va dire au niveau psychique, ne sera pas ébranlé de la même manière qu'une femme qui multiplie les conquêtes. Pourquoi ? Parce que l'homme, en tout cas, moi, de ma perception, l'homme, il arrive à faire une distance avec ses différentes conquêtes. C'est-à-dire qu'un homme, il peut avoir différentes conquêtes, histoire d'avoir différentes conquêtes. Pour moi, une femme, à un moment donné, par rapport à ce côté très sentimental, parce qu'on n'est pas fait de la même manière, très sentimental de la femme, moi, pour moi, je pars d'un principe qu'une femme qui va multiplier plein de conquêtes, à un moment donné, elle va tomber sur une personne.
L'attache.
Avec qui elle va s'attacher.
Bah, l'homme aussi.
Bah, justement, il y a une personne qui dit, enfin, il y a des personnes qui disent le contraire. C'est justement une femme qui va multiplier les partenaires aura du mal à s'attacher. Il y a tout et son contraire. Il faut savoir que chacun a son unicité. Chaque personne est différente. Homme ou femme, il y a des femmes qu'on peut dire qui ont des comportements d'hommes dans l'imaginaire collectif. Mmh. Et le contraire aussi, en fait. Et je pense pas qu'en tant que femme, que toutes les femmes, bien sûr, dans l'imaginaire collectif et même dans la société, on peut penser qu'une femme s'attache, elle est, comme on dit, cœur-sexe. En gros, à partir du moment où il y a du sexe, il y a forcément de l'attachement.
C'est faux.
Chacun est différent. Il y a des femmes qui peuvent faire des one-shot toute leur vie. Elles sont très bien comme ça. Ça dépend des personnes.
C'est sûr, ça?
Ouais. Oui. Oui.
Après, c'est de la même façon qu'il y a des hommes qui font des one shot toute leur vie et qui sont bien comme ça.
Ouais.
Moi, je pense que après effectivement, peut-être que d'un point de vue relationnel émotionnel, on a été éduqués de toute façon comme si nos cerveaux étaient anesthésiés. On a été éduqués à penser que les femmes sont sentimentales et que les hommes le sont moins. Et on voit aussi les répercussions sur certains hommes à qui on a pour lesquels on a négligé cette partie sentimentale et autres, et qui du coup eux aussi tombent dans une hypersexualisation parce que pensent que ils sont bons qu'à ça, que c'est machinal, que c'est mécanique, et je pense que selon le regard que les pères posent sur leurs garçons, ça peut avoir des répercussions sur justement le fait de multiplier les conquêtes ou pas. Parce qu'on a aussi des garçons qui multiplient pas les conquêtes, qui veulent se préserver, qui veulent attendre la bonne personne, et qui eux aujourd'hui se plaignent que dans la relation affective, les petites copines, elles sont trop pressées et qu'ils veulent pas. Et ils se sentent, ils s'y retrouvent pas. Et d'ailleurs, la dernière fois, dans la récré junior, Walid l'a un peu verbalisé, ce truc d'avoir envie de prendre du temps, de grandir, d'être une bonne personne avant de commencer à penser à tout ça. Et en fait, c'est la société et des fois les femmes aussi qui, je vois que tu veux réagir.
Non, mais je t'en prie, je termine ton
cours.
Non, je tenais à rejoindre mon ami l'homme au béret, tu vois. En fait, c'est vrai que dans la conscience collective, voilà, la perception de l'homme et de la femme est différente. C'est-à-dire, au risque de me répéter, un homme qui a divers conquêtes, c'est un don juan. Et une femme qui a divers conquêtes, voilà, on la traite de tous les noms. Après moi, j'ai l'impression qu'on vit aussi sous des injonctions et que peu importe où on se trouve dans ce monde, hommes et femmes, on a subi, enfin, on vit un conditionnement. C'est-à-dire que je comprends quand tu dis qu'il y a des femmes qui ça les dérange pas de faire des one-shots comme certains hommes peuvent en faire. Mais je pars d'un principe qu'on vit dans un certain conditionnement où, déjà, si on va dans certaines statistiques, dans bon nombre de régions de ce monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Tu vois, il y a un déséquilibre. T'as vu, même sur le plan affectif, parce qu'il y a... Et après, même dans d'autres pays, même carrément, il y a plus d'hommes que de femmes. Parce que, par exemple, en Inde, j'avais vu un reportage où il y avait des villages remplis d'hommes qui, à un moment donné, par rapport au fait que ce soit en Inde ou en Chine, ils avaient fait une politique de un enfant, tu vois, et du coup, ben, ça a tout déséquilibré, tu vois. Mais je me dis que, pour en revenir sur mon propos, et il faut pas que je me mette trop dans une sauce...
Mets-toi dans la sauce.
Voilà, je disais que moi je comprends ce que dit Barberis quand il parle de trouble, c'est-à-dire qu'on a subi un espèce de conditionnement tous où c'est vrai qu'on attribue un peu plus l'émotivité aux femmes, tu vois, c'est le fait et en même temps c'est un certain conditionnement mais qui est dû aussi à ce qu'on a vu et ce qu'on a lu et ce qu'on regarde depuis les films Disney, les dessins animés, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, Cendrillon, ma chaussure là-bas, ah, un prince charmant, il m'embrasse, belle au bois dormant, je t'embrasse, ah ça y est, t'es mon gars.
tu te réveilles, t'es mon gars.
le cheval blanc, le mec il arrive, ah là c'est mon sauveur de la vie. Et il y en a qui, je me marie avec une robe blanche, tac, on est là, on est tous heureux, c'est l'homme de ma vie.
Ils eurent des enfants.
Et tu vois, en fait, ce conditionnement a malheureusement, comment dire, fait en sorte que même dans nos sentiments, on a été conditionné en fait, tu vois, à ce que des femmes à un moment donné, certaines en tout cas vont s'attacher un peu plus à des hommes que des hommes vont s'attacher à des femmes, tu vois. Tu vois même dans la société antillaise, tu vois, c'est une société qui est matriarcale parce que il y a eu les Barberiche, les séquelles de l'esclavage qui font que il y a plein d'hommes. Moi, j'ai grandi avec plein d'antillais vers chez moi. La plupart, leur père n'était pas là, mais ils ont des groupes WhatsApp avec 30 demi-frères et sœurs. Chose qui n'existe pas forcément chez bon nombre de femmes dans ce monde. Elles n'ont pas multiplié autant de conquêtes que d'hommes. Oui. Le père de Youssoufa, il a 60 enfants. Youssoufa, tous les jours, rencontre des frères et sœurs. Ce n'est pas le cas chez des femmes déjà, une femme ne peut pas faire 60 enfants.
C'est ce que j'allais dire. Déjà, est-ce qu'après 60 enfants, on est encore vivante?
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tu as vu dans ce sens-là où je dis que j'arrive un peu à rejoindre Barberis dans le sens où on nous a conditionnés même dans nos émotions, c'est-à-dire dans nos sentiments. C'est attache-toi à un homme parce qu'à un moment donné, ça peut être ton sauveur. Et...
De toute façon, moi, j'ai du mal avec ce truc-là. Parce que pour moi, tu vois, la multiplication des conquêtes à terme, parce que moi, je dis toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire qu'on est là, on multiplie, mais au final, en plus, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que le sexe, c'est un côté addict.
Ouais.
Addiction aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi pour moi, hein, ça reste ma conception, même si
il y a pas un film qui s'appelle Sex Addict, non.
même si aujourd'hui les féministes elles disent le contraire, pour moi, on doit finir sa vie à deux.
Après,
et du coup,
ouais, mais c'est une conception qui est remise en question.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que
pour toi,
pour moi, on doit finir sa vie à deux parce que quand on vieillit, il nous arrive plein de choses. Et si t'es tout seul, pour moi, tu vieillis dans la tristesse, en fait. T'es obligé d'avoir quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un qui doit te soutenir. Quelqu'un qui doit te remonter le moral ou avec qui tu dois passer des moments. Mais maintenant, si t'es que dans la multiplication des conquêtes, parce que moi, je dis souvent aux gens...
T'as plein de quelqu'un?
Parce que moi, je dis souvent aux gens, la multiplication des conquêtes, elle s'arrête à un moment donné.
En fait, il y a besoin de connexion à un moment donné. On a besoin d'être connecté à une personne, de la voir. Enfin, moi, je dis souvent, quand deux personnes sont connectées, elles se voient, en fait. Elles ont un lien qui est tellement inexplicable, pas quantifiable. C'est tellement profond et puissant. Et tu peux pas l'avoir, enfin, à mon sens, attention, tu peux pas l'avoir avec plusieurs personnes. ça abîme.
Il
n'y
a pas ton sens. Tu peux pas. Non, tu peux pas.
Attendez. Bouba et après Flo. Parce que là, vous êtes, c'est la dernière émission. Vous êtes en train de remettre un sujet sur la table d'une autre émission qui serait la connexion. Vas-y.
Non, mais elle a raison. Tu peux. Non. Parce que faut arrêter. Excuse-moi, Florinda. Non, parce que tu peux pas. Tu sais, parce que. Tu sais, nous, en plus, tu vois, on est dans le monde du divertissement, tout ça, les filles, les gars qui sont là, ça multiplie les conquêtes. Ok, moi, des fois, je dis aux gens, j'ai ouais, ok, là, t'es fraîche, t'es frais, ok. Mais à un moment donné, tu vas faner.
Mais non, tout le monde, tu n'es pas moche, regarde-moi.
Non, mais c'est la nature, tu vas faner. Tu vas continuer à faire tes multiplications de conquêtes, sachant
après,
que tu vas être dans une addiction.
Ce qu'on appelle le polyamour, après ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Mais
vous avez vous lancer des débats des...
Oui, il y a des personnes qui arrivent à être connectées à plusieurs personnes. Moi, à mon sens, j'ai déjà accompagné une personne qui était dans un trouble, c'est ça. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes, de conflits de couple parce qu'ils étaient trois et que finalement, la personne que j'ai accompagnée, du moins, a été un peu abîmée par cette relation-là. Vraiment, ça lui a vraiment...
C'était un trouble.
Ouais,
mais ça, c'est du, c'est du cinéma.
Pardon, il trouvait pas sa place.
Bah, il y avait des sortes de règles en fait. On se laisse pas aller. Enfin,
c'était. C'est normal. C'est normal.
Et en même temps, tu réfléchis, tu dis, mais c'est bizarre leur truc.
Non, mais après aussi, il y a une réelle question, c'est que aujourd'hui, beaucoup confondent l'amour. Et on en parle beaucoup quand on accompagne les adolescents et les jeunes, notamment de moins de 16 ans. Avant 16 ans, quand tu as une relation sexuelle, ton corps n'est pas prêt à ça. Donc, tu ne vas pas avoir l'hormone que tu vas sécréter plus tard à l'âge adulte. Du coup, c'est qu'après que tu te rends compte de la relation sexuelle, la vraie, qu'est-ce qu'elle te procure, les hormones qui... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles chez les jeunes qui rentrent dans la sexualité trop tôt, qui multiplient l'acte. En étant dans un acte sexuel pur, sans émotion, sans hormones, dans la performance ou même juste dans l'échange des corps. Et quand elles arrivent à 17-18 ans et qu'elles ont une relation sexuelle, elles se rendent compte que tout ce qui s'est passé avant, c'était quoi alors ? C'était pas... Et du coup, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du psychique. Ça veut dire que je me suis adonnée à une activité sexuelle. Mais sans le plaisir charnel, la connexion dont vous parliez. Et ça aussi, je pense que ça vient perturber les relations adultes, du fait de multiplier les conquêtes, de ne pas s'attacher, etc. Et encore, là aussi, il y a deux sujets. Comme on dit, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a ceux qui en font un choix de vie et on est OK avec ça.
Non.
Chacun. Non, mais... Tu n'es pas OK, mais c'est OK.
Mais
ça leur appartient. Ouais. Et ceux qui basculent dans un trouble lié à une carence, un besoin. Et notamment, juste avant que tu parles, Florinda, je pense qu'il y a aussi il faut mettre un temps de pause et se questionner sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce qu'une relation affective et sexuelle, et surtout, quels sont les besoins. Tout à l'heure, tu disais, tu veux mettre un vêtement, bah, pourquoi tu veux le mettre ? Bah, tu veux coucher avec moi, mais pourquoi tu veux coucher avec moi ? Qu'est-ce que ça te procure ? Qu'est-ce que ça implique ? Quel est ton besoin à cet instant précis ? Est-ce que c'est un besoin charnel ? Est-ce que c'est un besoin de connexion ? Est-ce que c'est un besoin d'aimer ? Ou c'est purement, comment dire, charnel ? Juste le fait de multiplier des conquêtes sans réelle envie d'être avec l'autre. Oui.
Tableau de chasse.
Florinda et après Bouba.
Ok, je vais essayer de faire le pont entre ce que tu disais parce qu'on n'a pas vraiment répondu à ta question.
Ouais, c'est
quand
vrai.
Tu parlais du fait de s'habiller pour. Dans la manière dont on expose son corps, des fois c'est du business et des fois c'est effectivement synonyme de manque ou de trauma, etc. Ben, je pense qu'effectivement on n'est pas forcément en capacité de pouvoir maîtriser les éléments qui nous sont extérieurs. Donc, on ne saura jamais vraiment, entre guillemets, qui s'habille pour le business et qui s'habille parce que ben, y a un manque à cacher ou à montrer. Enfin, je ne saurais pas trop comment le qualifier. Mais ce qu'on peut apprendre aux enfants, encore une fois, c'est que qu'importe ce qui l'entoure, il doit toujours en revenir à lui ou à elle. Et du coup, avoir cette introspection très tôt, de savoir, comme ça, on a des adultes qui sont affirmés dans leurs décisions, qui se connaissent, mais aussi qui ont conscience effectivement de ben voilà comment je veux être aimée, je souhaiterais être aimée, non je veux être aimée, voilà comment j'aime. Et du coup, effectivement, dans la connaissance de soi, je pense qu'on va être en capacité de pouvoir créer des connexions qui soient plus durables, à mon sens, plus profondes, avec des connexions qui peuvent durer toute la vie. Parce qu'effectivement, il y a cette connaissance de soi. Moi, j'en reviens toujours à la connaissance de soi et à la compréhension de sa personne pour pouvoir créer quelque chose de durable. Mmh. Donc voilà.
Avant que j'oublie, j'ai pris plein de petites notes parce que vous m'avez tous inspiré. Moi, je crois qu'il faut une formation, un apprenti, enfin, une. Souvent, j'en ai parlé avec Barberich ou d'autres. Moi, je crois qu'il y a une différence entre l'amour véritable et le simple plaisir charnel, tu vois. Et je pense qu'il faut une formation, peut-être à l'amour en vérité. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui. En fait, l'amour, c'est beau, l'amour.
Et je pense qu'il y a plein de. Ateliers.
Ouais, voilà, j'invite les gens à venir à ton atelier pour. Voilà. Je pense qu'il faut la. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi aimer. Parce que aimer, c'est profond et c'est sincère.
Est-ce que ça existe encore, aimer?
Bien sûr.
Bien sûr, ça existe.
Je suis une fervente défendrice de l'amour. L'amour véritable, quand tu es connecté avec quelqu'un, quand il te voit, quand on se voit, quand on peut tous dire, quand on n'a même pas peur de. C'est tellement profond, c'est tellement. Il n'y a pas d'autre. C'est beau, c'est bon. C'est, ouais. Et tu n'as pas peur, en fait, d'être devant cette personne-là et de dire écoute, je ne suis pas bien. Bah, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ça existe. C'est juste qu'on a tellement peur de, justement, d'avoir mal. On a tellement peur de se tromper. On a peur. Et finalement, on met plein de garde-fous. Mmh. Et puis, on loupe plein de choses.
Mais est-ce que la consommation, tu vois, le fait de multiplier les relations, les aventures, et bah, ça nous empêche de connaître l'amour?
Alors, quand tu multiplies plein de partenaires, déjà, faut se poser une question. Quand tu décides de te mettre avec une personne, qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes attentes? Quels sont tes besoins? Est-ce que cette personne-là est en capacité de pouvoir me les apporter? Et est-ce que moi, je suis en capacité de pouvoir d'être dans ses attentes et dans ses besoins? Des fois, il y a des personnes qui se mettent ensemble et ils sont même pas prêts, en fait. Et c'est juste une attirance physique ou un truc qui fait que, bah ouais, là, cette chose qui fait que ça m'attire. Dans un couple, il y a quatre niveaux de connexion. Le premier, c'est le spirituel. C'est vraiment comment est-ce qu'on voit la vie, comment est-ce que notre façon de voir la vie. Donc ça, c'est le spirituel. Ensuite, il y a le mental, nos hobbies, les goûts, si t'aimes la musique hard rock, si t'aimes le foot, etc. Ensuite, il y a le physique. Donc tout ce qui est en rapport avec le physique, ce que la personne dégage quand elle parle, quand elle bouge, le physique, vraiment comment tu la trouves belle ou beau. Et il y a quelque chose qu'on appelle l'émotionnel, c'est quelque chose qui est tellement pas rationnel, qui est tellement pas, c'est pas palpable. Je t'aime parce que je t'aime, je sais pas, il y a un truc. Et parfois, il y a qu'une seule connexion dans un couple et les trois autres sont oubliés. Et on va se dire, bah, c'est creux. Ça, je sais pas si c'était déjà arrivé d'être avec une personne. Tu dis, mais elle est tellement belle. D'ailleurs, je te trouve très belle.
Merci beaucoup.
C'est mais très c'est creux. Gentil. Je m'entends pas avec elle. On n'a pas la même façon de voir la vie. On n'a pas. C'est creux, en fait. Et c'est là où on se dit, bon, bah, swipe. Mais dès que vous commencez à être avec une personne, parlez avec elle. Parlez de vos choix de vie. Parlez de vos carrières, d'éducation des enfants, de position sexuelle. Parlez de tout ce qui. Parlez-vous, en fait. Et c'est ça où est le problème
bon,
quand
pour
on
les
multiplie.
Positions, hein.
Je pense que au niveau
pour
de la
les
sexualité,
positions, moi aussi il va falloir faire quelques ateliers quoi.
Quelles sont tes attentes sexuelles? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Pourquoi est-ce qu'on devrait se mettre ensemble? Et je pense que c'est là où ce qui fait que il y a de la multiplication de partenaires, c'est qu'on se pose pas cette question.
Mais tu sais, dans ce que tu dis, Elvira, excuse-moi Bouba, je viens de voir ta main. Dans ce que tu dis, Elvira, il y a aussi autre chose qui joue à l'âge adulte. Et là, on s'est beaucoup attardé sur les déviances, etc. Mais même dans les couples qui vont bien, en tout cas qui paraissent aller bien, le fait de pouvoir verbaliser à l'autre ses envies, ses préférences ou ses zones moins agréables, c'est pas forcément toujours aisé. Alors que peut-être que quand l'amour y est, que la connexion y est, que la complicité y est, ça peut favoriser, mais pas toujours. Parce que c'est comme si ce tabou, ce bagage qu'on emmène avec nous dans notre vie de femme et de couple, on en parle souvent avec les jeunes ados et les jeunes adultes lors des paroles de filles, où elles disent, en fait, on va rentrer dans nos vies maritales sans vraiment savoir, on va découvrir, mais du coup, on arrive avec nos bagages. Et dans ton bagage, tu n'as pas le fait de dire à l'autre ce qui te fait plaisir ou moins. et c'est compliqué. C'est-à-dire que des fois tu te dis bon attends je vais dire que là ou là je vais lui dire et quand tu regardes l'autre c'est comme si t'es envahi par la honte par quelque chose qui est un peu qui est pas normal qui se dit pas et tu vas essayer d'accompagner dans le geste mais et encore ou te laisser faire pour certaines femmes on entend mais beaucoup de femmes qui font la planche quoi
ça vient de l'éducation c'est pas parce c'est justement parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler de ça avec nos parents que quand on rentre dans le mariage, bah, tout de suite, ça ne signifie pas qu'on va parler de sexe. Non, parce que c'est tellement ancré, c'est mal de parler de sexualité, c'est mal. Alors même quand on est dans sa vie d'adulte, dans sa vie sexuelle, c'est tellement là que, bah, on n'arrive pas en fait.
Mais est-ce qu'on peut parler de ses parents qui en parlent trop? Parce que moi, j'ai quand même aussi des contre-exemples. Il y a parler et parler. Et il y a une différence, et je pense que tout à l'heure on parlait de l'éducation à l'école et de la place et de l'importance que c'était, et de la polémique de certains parents qui s'opposent. Il y a parlé de la relation affective, c'est-à-dire la connexion avec l'autre, le lien, le respect des pères, le fait d'aimer être avec une personne, etc., qui est complètement différent de l'acte sexuel. C'est deux choses complètement différentes et qui arrivent bien plus tard. Et la façon dont on en parle, comme disait Anne, mais il y a aussi les gens qui en parlent un peu trop. Des parents ou des éducateurs qui en parlent avec tellement de légèreté qu'ils ne prennent pas en compte le fait que ça chamboule l'autre, ça gêne l'autre. Et qu'un adolescent qui se découvre, qui découvre son corps, eh ben, c'est peut-être pas avec toi, parent, qu'il a envie de parler de ça. Mmh. Et c'est comment je t'ouvre, je t'éveille pour que tu puisses te questionner et trouver. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur cette question de où est-ce que nous, parents, mais où est-ce que les jeunes aussi, peuvent trouver des adultes de référence à qui poser des questions, en parler. Le médecin étant quand même le premier interlocuteur. Hein. C'est pour ça que c'est important aussi de voir à partir de quel moment on laisse son enfant seul avec le médecin, pour qu'il puisse aussi questionner des fois ce qu'il fera pas quand on est là. Mais il y a des parents, ils ont pas de tact. Ils parlent de sexe, de sexualité avec les enfants sans aucune pudeur, sans aucune gêne, avec des mots qui sont pas forcément appropriés, et des éducateurs et des adultes aussi, qui pensent que, bah oui, il faut en parler, on est là pour ça. Et je tiens vraiment à ce que tout le monde soit vigilant sur quand on dit il faut en parler, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui. Et toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants ne sont pas les bonnes personnes pour en parler. Parce que du coup, bah, on a des animateurs, des éducateurs, des enseignants, des monsieur et madame lambda qui viennent parler de sexualité sans pudeur, sans gêne, et avec, en fonction de leur histoire et leur vécu, des termes qui sont choquants. Et moi, je reste quand même sur la conviction qu'avant de mettre en place des espaces comme ça, bah, peut-être accueillir les parents et leur expliquer de quoi il en retourne, de quoi on parle, de quoi vous souhaitez qu'on parle, et l'importance de, pour justement qu'ils soient plus ouverts et que ça devienne pas non plus l'endroit où on vient parler en cachette pour s'expérimenter à d'autres choses. Parce que du coup, c'est
mais,
bizarre aussi.
Mais je suis d'accord avec toi, des fois il y a des parents, enfin moi j'en ai vu, bon, moi je suis d'origine africaine, hein. Le sexe à la maison, en parler c'était compliqué. Moi j'ai déjà une copine d'origine portugaise où c'était tellement facile chez eux de parler de sexualité, on est à table et moi j'ai une scène où le papa disait, sa fille buvait un truc, elle a failli s'étouffer, il lui a dit bah, ça se voit que t'as pas l'habitude d'avaler, hein. On est à table quoi. Moi, ça m'a choquée.
Bah, il parlait de manger.
Ouais, mais bon, voilà. Non, on sait de quoi il parlait. Et pour eux, c'était tellement. Et ça l'a gêné, moi aussi, ça m'a gêné. Et c'est parce que c'est mal dit. C'est peut-être dit avec de l'humour gras, comme on dit. Mm. Et c'est ça aussi qui gêne, en fait. C'est la façon dont.
Puis ça peut cacher autre chose aussi.
Ouais. Peut-être.
Cacher quoi?
Bah, on disait tout à l'heure, il y a tout ce qui est incestueux, etc. Moi, je pense aussi qu'il y a des gens qui, du coup, sous couvert des tabous, peuvent se permettre. De façon, en fait, c'est très pervers. Mmh. Tu peux dire de façon ouverte devant tout le monde quelque chose de très sexuel quand tu es un parent incestueux ou un adulte incestueux, et ensuite sous couvert de ça, quand tu te retrouves tout seul avec l'enfant, bah tu vois, tout le monde est au courant. Et alors,
ouais, il y a ça, je pense que ça doit être de manière inconsciente ça aussi, mais il y a aussi une histoire de mœurs. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que tu vois l'exemple que tu viens de donner, c'est qu'ils veulent le banaliser et ils veulent l'étendre à tout le monde. Mmh. C'est ça, moi, qui me dérange. Et c'est pour ça que je disais que j'en voulais aux féministes et aux autres. Mmh. C'est-à-dire que ce genre de...
Il réitère.
Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que,
non mais
t'es d'accord avec lui, il y a des
ce que je veux dire c'est qu'il y a une branche,
il y a des extrémistes.
Mais
on est d'accord,
il y a une branche en fait, parce que quand je dis les féministes c'est parce que je grossis le truc, mais bien entendu que dedans
elles sont utiles à notre cause.
Bien sûr
le truc c'est que féministe est devenu presque un gros mot maintenant.
Voilà,
mais pourquoi, parce que c'est comme quand tu dis extrême droite.
Beaucoup.
Tu vois, quand tu parles des extrêmes et que tu en fais une généralité, ça veut dire que extrême droite, extrême gauche, dans les féministes, il y a les féministes et celles qui sont extrémistes, celles qui sont et du coup en fait ce qui est dommageable. Ce que je veux dire c'est que il y a des extrêmes partout. Et dans les féministes qui sont utiles à notre cause, il y a certaines femmes qui sont dans des extrêmes, mais qui ne font, qui sont loin d'être la majorité.
Et pour moi,
et qui font beaucoup de
et qui font beaucoup
et
plus.
Et pour moi, tu sais c'est lesquelles? Et tu sais pour moi c'est lesquelles?
Non, je veux pas savoir.
Moi, je veux pas rentrer dedans.
Parce que on est tous sortis de la marmite.
Non, je vous le dirai en off. Mais pour moi, elles sont pas en train de défendre la cause des femmes. Mais c'est un autre sujet.
T'as dit quoi, Florinda?
Non, j'ai dit, elles servent une autre cause, c'est ça?
Elles servent leur cause de frustrer. Mais j'irai, mais je donnerai les profils.
Il l'a dit. Hein. Et Booba, il rigole. Ouais.
Non, parce qu'il sait.
Non, ils vont nous mettre dans la sauce.
Non, il sait. Les célibataires endurcis et.
Non.
Et les
autres. Non, mais attends. C'est bon, tais-toi,
mais c'est la vérité. Si vous regardez le profil de celles qui tiennent ce genre de discours. Bref.
Là où je te rejoins effectivement, c'est qu'il y a des femmes qui sous couvert de la féminité, du féminisme, desservent la cause parce qu'elles en font peut-être trop. Et il y a même une fois où j'avais vu une émission, une femme qui disait que elle ne voulait plus utiliser quand elle parlait le genre masculin. Mais on va où en fait? C'est voilà.
Pardon, je suis morte de rire parce que je suis juste en train de prier pour que le regard de Barberiche et de Booba ne se croise pas. Et en fait, Booba, pour les auditeurs, vous ne voyez pas, Booba, il s'est complètement tourné à l'opposé de Barberiche parce qu'ils savent que si leur regard se télescope, cette émission va partir en feuille.
Ça aurait été dans une de nos émissions, je l'aurais dit normal. Mais là, il y a des gens respectables, des femmes respectables ici, j'ai pas envie de les mettre dans la sauce. Nous, on a l'habitude d'y être, mais j'ai pas envie de vous mettre avec nous. Mais oui.
Florine.
Moi, je suis pas d'accord avec ce truc-là de parler de. Il faut en parler, c'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, relations affectueuses et sexuelles, il faut en parler, c'est important. Il y a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, on tombe dans une dérive où on parle de sexe à tout va. Et pour moi, le sexe, ça reste quand même de l'ordre de l'intime pour moi. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est sur la place publique et c'est ça qui me dérange, moi.
Flo.
Alors, il y a eu beaucoup d'informations, donc je vais essayer de. tu parlais de où est-ce qu'on peut trouver l'information, du fait qu'il y a des parents qui parlent trop de ça.
En fait, où est-ce qu'on peut trouver, c'est important, et où est-ce qu'on peut trouver des personnes ressources, des lieux, pour les parents comme pour les jeunes, pour se questionner et questionner. Donc tout à l'heure, Elvira, du coup, elle nous en parlera aussi des ateliers qu'elle mène, mais il y a quand même des lieux identifiés pour les familles et pour les jeunes, et qui sont méconnus. Est-ce que vous connaissez certains lieux? Est-ce que vous en identifiez certains?
Moi, je sais qu'il y a des centres sexuels un petit peu partout dans les villes.
Ouais.
Après, c'est vrai que c'est compliqué quand on est à la campagne, mais quand on cherche sur Internet, on trouve forcément des centres sexuels.
Après, il y a les PMI.
Il y a les PMI, ouais.
Il y a les plannings familiaux.
Tout à fait.
Après, le planning familial.
J'ai une question. En toute naïveté, est-ce que ces établissements, comment dirais-je, est-ce qu'ils accompagnent réellement? Enfin, je ne suis pas en train de remettre en doute leurs actions. Je vais reformuler ce que je suis en train de dire.
Elle a trop traîné avec nous.
Ouais.
Efficacement.
Oui, bon. Est-ce que... Enfin, dans la multitude de personnes qui peuvent accéder à à l'accompagnement dispensé, est-ce qu'on peut vraiment créer une connexion? Enfin, je ne saurais pas comment expliquer.
Est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement qui est favorable et qui est adapté,
à tous? Tout à fait. Est-ce qu'on peut vraiment voir ces personnes comme étant, pas des personnes de référence, mais... Est-ce que je prendrais la main de mon enfant, si j'en ai un demain?
On est là.
Oui, exactement, pour l'emmener là.
En vrai, je pense que ça dépend vraiment des personnes qui sont sur place. Du personnel qui est sur place. Il y a des personnes qui sont vraiment géniales, mais vraiment, j'en ai rencontré.
Okay.
Et il y a des personnes, j'ai essayé de faire des interventions justement dans un centre sexuel. Bon, je ne dirais pas le nom parce que voilà. où j'ai vraiment eu une personne exécrable devant moi. Okay. Mais vraiment.
C'est comme pour tout,
c'est
en fait.
C'est comme pour tout.
Ok, ouais. Je comprends. Merci.
Après, effectivement, ça dépend des professionnels qui travaillent dans les lieux, mais ça dépend aussi de l'état d'esprit. Aujourd'hui, le planning familial, on les voit trop peu. Mm. On les entend et trop peu. Pour autant, ce sont des lieux qui accueillent, accompagnent les jeunes, notamment aussi pour l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Il y a tout un processus pour que ça n'apparaisse pas sur la carte vitale, que ton parent soit pas forcément au courant, bien ou pas bien, peu importe, mais il y a cette question-là. Il y a aussi des cellules spécifiques dans les hôpitaux, des points jeunes, il y a plein de trucs. Il y a quartier jeune à Paris pour ceux qui sont en région parisienne, où il y a un thérapeute, mais il y a aussi une cellule et un lieu ressource. Et puis il y a plein d'ateliers qui se mettent en place un peu partout. Maintenant, c'est comme tout. Un bon professionnel, c'est quand t'es en face que tu le sais. Mmh. Et des fois, quand tu te rends compte que c'était pas un bon, t'es déjà toi-même dans des difficultés. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que les gens soient diplômés, formés, et de pas confier son enfant effectivement au tout venant juste parce que il prêche la bonne parole, parce que du coup, il y a des enjeux.
Tout à fait.
Il y a des enjeux de santé publique déjà. Qu'est-ce que c'est de dire à un jeune, tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps? Comment on accompagne ça? On n'a pas parlé de la prévention, des préservatifs, des vaccins. On n'a pas parlé des traitements pour le sida. Et du coup, qu'est-ce que ça induit quand on veut parler sexualité à des enfants, si on le fait mal? Et je pense que la grosse crainte en tant que parent, elle est là. C'est-à-dire, ok, tu vas en parler, ok, tu vas accompagner mon enfant, mais c'est quoi l'idée? Et du coup, une fois que tu lui as, et une fois que tu as ouvert le champ des possibles, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Donc, encourager quand même les parents, effectivement, à tenir la main à l'enfant.
Bien sûr.
Mais y aller avant, justement, pour savoir, est-ce que mon enfant aura devant lui, quoi. C'est important.
Et puis, c'est de se dire, c'est bien beau, toi. Tu viens dire à mon enfant qu'il est libre, que son corps lui appartient, que le consentement, qu'il fait ce qu'il veut. Mais, oh. Et du coup, c'est quelle porte tu ouvres, comment tu l'accompagnes jusqu'au bout et comment on s'assure de... Et en plus, avec les réseaux et tout ce qui se passe derrière, moi, j'ai pas envie que ma fille, elle pense que à 16 ans, à 14 ans, à 12 ans, je choisis de faire ce que je veux de mon corps. Je pense que nous, les parents, on est quand même garants de leur sécurité physique, psychique, émotionnelle, et que la place d'un enfant, c'est pas dans la couche d'un autre. Et après, ça, c'est que mon avis, mais pour moi, la majorité, elle a un sens. La responsabilité des parents, elle commence aussi là. En quoi je porte ma responsabilité quand j'autorise mon enfant, mineur, enfant, à avoir des comportements ou des agissements d'adultes, sous couvert de j'ai bonne conscience, je me donne bonne conscience.
Et ça, c'est pourquoi, à ton avis?
Pourquoi quoi? Que je veux pas?
Non, toi tu veux pas, mais aujourd'hui on est dans une politique où on veut autoriser tout ça.
Parce que c'est une société d'hommes pensée par les hommes, faite pour les hommes, avec des lois qui s'appliquent en grande majorité en faveur des hommes, et que du coup, pour satisfaire les besoins de certains, le fait d'avoir une ouverture sexuelle tôt permet des...
Oui. Après, des satisfactions
diverses. attendez, c'est permettre. Regardez comment je parle lentement. Permettre des.
Mettre l'accent sur le fait que. Là, parce que là, tu parles de pédopornographie ou de pédophilie.
Non, même pas. Je suis vraiment bien au-delà de ça. Je dis juste que.
Non, mais tout est amené en douceur.
Dans la conscience collective.
On a l'impression que la pédophilie, c'est un problème masculin, c'est les hommes.
Non, la pédophilie, c'est pas les hommes, c'est les hommes et les femmes. Moi, j'ai dit, la société, elle est pensée pour les hommes, par les hommes, avec des lois qui favorisent les hommes. Et je le pense vraiment. Et ça veut dire que, depuis la nuit des temps, si on repart sur le fait que les femmes, les filles ont été éduquées pendant très longtemps pour satisfaire les besoins de l'homme, dans sa couche, le fait d'avoir accès à la sexualité plus tôt, ça reste quand même le fait de satisfaire un besoin. Et maintenant, c'est comment déconstruire pour reconstruire. Ça veut dire que les jeunes filles étaient mariées bien avant leur majorité. Donc la question de la sexualité des enfants ne se posait pas. Et il y a encore des pays où malheureusement, des jeunes filles très très jeunes, de 11, 12, 13 ans, se marient. Donc, accèdent à la sexualité avant la majorité, sans que ça soit un sujet qui soit posé sur la table, parce que ça répond à un besoin masculin. Mmh. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut déconstruire, et que ça met des années et des années à être déconstruit, mais que dans la société, indirectement, même s'il y a plein de lois et plein de choses pour protéger l'enfant, la majorité sexuelle, elle est encore en dessous de la majorité réelle.
Mais là, ils en discutent. Hein. À l'Assemblée, à un moment donné, la majorité sexuelle, elle a 15 ans.
Il
voulait la descendre à 13. Et je te rejoins dans...
C'est encore en dessous de la majorité.
Dans le constat réelle que tu fais, là.
C'est-à-dire que si ton enfant a 15 ans, il a la majorité sexuelle, bah pourquoi on ne met pas la majorité tout court à 15 ans, alors ? C'est-à-dire, en fait, il faut poser la question dans tous les sens du terme.
Je suis d'accord avec toi.
Pourquoi, sexuellement, il est en capacité de faire ses choix et que ce n'est plus un enfant, mais que légalement... Il ne peut pas passer son permis, il peut pas passer. Il a encore besoin de l'autorisation de ses parents, etc. Alors que l'acte le plus important de la vie, c'est-à-dire la communion, la rencontre, et là où tu peux donner la vie, on estime qu'à 15 ans, on a le débat de à 13 ans, t'es adulte, dans le lit. Mais par contre, légalement, tu restes un enfant. Donc tu restes encore l'appartenance et sous l'autorité des adultes. Il y a un
vrai sujet.
Mais, comme dirait Damidieu dans Balpoussière, les affaires sérieuses se règlent dans le lit. C'est ce qu'il disait jadis. Moi, je crois qu'on est dans un grand défi, que ce soit dans la société ou même nous, dans nos familles, c'est de... Parce que c'est paradoxal, en fait. Comme je disais, il y a du sexe partout, mais on n'en parle pas forcément partout. Et je me dis qu'en fait, il faut arriver à vulgariser la manière à travers laquelle on parle de sexe, ou même la pratique du sexe, arriver à la vulgariser sans la désacraliser. Parce que quelque part, l'acte sexuel, c'est précieux. C'est quelque chose de...
C'est très bien dit.
C'est sacré, en fait, tu vois. Mais il faut en arriver à en parler avec classe. Tu vois, pour rejoindre un peu ce que tu... Voilà, les questions que tu nous posais, il y en a qui en parlent avec un humour gras, comme tu dis, tu vois. À tout va, alors qu'il faut arriver à en parler avec classe et même arriver à...
C'est précieux.
Ouais, c'est précieux, en fait. L'acte sexuel, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein. C'est précieux.
Et c'est ça qui est super important. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que le fait de... Parce que, bien entendu, que tout le monde fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en faisant ce que...
Pour les enfants, je sais pas.
Non, mais en faisant ce qu'ils veulent, eh ben, on désacralise l'amour, l'acte sexuel. Parce que pour moi, c'est quelque chose de précieux, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, le fait de consommer, c'est comme si on allait au McDo. Donc ça perd, pour faire un parallèle, la malbouffe et le côté raffiné. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose où l'acte sexuel, vu qu'aujourd'hui, on est dans cette libération-là
excessive,
et pour moi, ça désacralise le moment.
Ouais,
et c'est ça moi qui me dérange. Après, bien entendu, les gens me diront oui, mais on fait ce qu'on veut. Ouais, d'accord. Mais non, aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, il y a une espèce de mal-être, de maladie ambiante où les gens, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, ne savent plus forcément s'ils aiment, s'ils sont aimés. Ils savent plus,
en
fait.
Il y a ce truc où les gens ont plus de facilité à se dire « j'ai envie de toi, j'ai envie de te baiser, j'ai envie de machin ». Mais le « je t'aime », en fait, c'est devenu compliqué. On a plus de facilité à avoir
désirer.
Des relations, avoir du désir, qu'avoir de l'amour. Alors que, en vrai, pour moi, c'est comme ça que je définis l'acte sexuel. C'est une démonstration physique de l'amour que tu as envers ton partenaire. Il y a de l'amour dedans. Et puis d'ailleurs, même quand on a un orgasme, il y a l'hormone, de l'attachement aussi qui se libère dans le corps, l'hormone de l'amour. Donc, quelque part, la sexualité, il y a de l'amour quelque part.
Après, vas-y, Boubou.
T'avais fini ? Non, j'allais dire que normalement, l'acte, c'est la fin du bal.
Ouais, c'est assez c'est vrai.
Non, mais l'acte c'est le but ultime en réalité.
Oui.
Parce que ce qui est beau dans l'amour, c'est de se courtiser.
C'est vrai.
C'est de charmer l'autre, c'est de se courtiser et ce truc de même faire languir l'autre. C'est ça qui est beau. Mmh. Et après, il y a l'acte. Et c'est pour ça que l'acte, il est après merveilleux, parce que t'arrives à tes fins.
Non mais c'est vrai, c'est vrai, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, quand on fait l'acte, il y a quelque chose qu'on... Comment dirais-je ? Un sommet qu'on ne peut pas atteindre d'une autre manière que dans l'action en question. Donc, c'est bien que c'est précieux et qu'effectivement, comme tu parlais du processus, il y a des étapes à respecter, d'où l'importance, effectivement, de pouvoir, nous, en tant que parents, déjà... oui, déjà parents, et comme tu disais avant l'émission, du coup, ça a été dit en off, mais il faut tout un village pour pouvoir éduquer des enfants. Et dans cette notion de tout un village, effectivement, on peut contribuer à permettre à chacun, à chaque enfant, à chaque jeune adulte de, qui se construit et qui se cherchera tout au long de sa vie, de pouvoir comprendre qu'effectivement, c'est une notion de quelque chose de l'ordre de précieux. D'où l'importance, effectivement, de conscientiser chacune des actions qu'on fait. Pourquoi est-ce que je veux aller avec l'autre ? Est-ce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure des quatre pans de l'amour ? Mmh. J'ai retenu spirituel, émotionnel,
physique. Et physique.
Ouais. Ah, trois, pardon.
Il y en a quatre.
Ah, il y en a quatre ?
Et le... Il y a émotionnel, spirituel, physique
mental.
Et mental.
Ah, mental, effectivement. Et du coup, dans sa recherche et dans sa compréhension de soi, de se dire, ben, maintenant que je me connais, que je sais ce dont j'ai besoin, effectivement, la compréhension de l'autre me permettrait effectivement de pouvoir avoir une belle alchimie avec l'autre et de pouvoir toucher ce summum ensemble en toute...
Après,
en respectant
après
ce...
c'est vrai qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure
oui,
du temps.
Oui, il n'y a pas
besoin
de
se connaître à 3000% pour
oui.
être avec quelqu'un.
Non, je suis d'accord.
Mais avoir quand même une bonne base de savoir
c'est
ce que
important.
Je veux, ce dont j'ai besoin aussi.
Et pourquoi ? Bah, et... Bouba, il dit souvent...
lequel ?
Le maître... Non, toi. En fait, il dit souvent... Anne aussi, le mot, c'est l'amour, en fait. Le mot d'ordre, c'est l'amour. Mmh. Et je pense que on est dans une société en manque d'amour. Et du coup, transmettre cet amour quand on l'incarne pas, quand on la vit pas, quand on la nomme pas ou quand on se trompe, qu'on sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Être avec quelqu'un qu'on affectionne, c'est pas la même chose qu'être avec quelqu'un qu'on aime. Être avec quelqu'un qu'on admire ou qui nous touche, ce n'est pas la même chose qu'être avec quelqu'un qu'on aime profondément. Et du coup, je pense que pour transmettre ces notions de relations affectives et plus tard dans le temps sexuelles, il faut aussi ne pas forcément le dissocier de l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amitié, le deuil. Tout en fait partie, en fait. C'est un cheminement à toutes les étapes. Je pense réellement qu'aujourd'hui, pour bien faire, il faudrait une société plus aimante. Une société plus aimante avec des adultes plus amour. Oui. Et là, peut-être qu'effectivement, on sera dans la transmission de quelque chose de bienveillant. Donc, on luttera et on fera reculer le fléau des traumas liés à des, un amour qui, des fois, est, comment on dit, qui est un amour qui se traduit mal. Parce qu'un parent incestueux, c'est pas un parent qui n'aime pas, c'est un parent qui aime mal. Parce que peut-être il a été mal aimé, parce qu'il y a des déviances, etc. Et du coup, je pense vraiment que la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas dissocier le cultuel, pour le coup. C'est-à-dire le prisme et la part de la croyance religieuse, quelle que soit la religion, dans la relation affective et amoureuse. C'est-à-dire que déjà dans nos livres saints, tout livre confondu, il y a des chapitres sur l'amour, sur le corps, sur la reproduction, et on ne peut pas faire fi de ça. Et en fait, on est dans une société où on veut faire fi de tout.
Exact.
Et passer nos besoins, nos envies ou l'envie d'apparaître comme des gens aboutis qui vraiment bah, font ce qu'ils veulent. Et on essaye de faire fi de certaines choses qui, en fait, régissent l'homme. La religion, quelle que soit la religion, c'est un fil conducteur qui est très précieux dans la vie de l'homme et qui maintient l'homme. Et du coup, on ne peut pas demander à ces mêmes hommes de transmettre ou de vivre l'amour charnel, spirituel, mental ou affectif, différemment que celle qui nous a été transmise.
Ouais. Et c'est vrai que c'est important que tu parles de religion parce qu'il y a le tabou de la sexualité par rapport à la religion. Mais je pense, après vous me dites, si je me trompe, dans aucun livre sacré, aucun livre religieux, il y a noté qu'on ne doit pas parler de sexualité à son enfant.
Mais par contre, dans quasiment tous les livres sacrés, il y a cette notion de la relation charnelle, de la reproduction, de certaines étapes, de la déprave, il y a quelque chose autour de la sexualité qui va être interprété ou pas, mais dans tous les livres saints, dans toutes les religions confondues, et même chez ceux qui n'ont pas forcément une religion propre, mais qui ont un aspect spirituel, il y a quelque chose autour du corps. Du corps, de la naissance, de la vie, etc. Et du coup, on peut pas faire fi des religions et des croyances, des appartenances de tout le monde. Et je pense que c'est comme si on était tous on est des psychopathes. En fait, on est tiraillés dans tous les sens. D'un côté, il y a ce pendant religieux, spirituel. De l'autre côté, il y a ce que la société attend de moi. De l'autre côté, il y a mon envie de briller, de paraître comme quelqu'un d'abouti. Et tout ça...
Mais t'as vu, je rebondis sur ce que vous dites. Ça, c'est la faute à... T'as vu, cette société, elle est quand même dirigée...
C'est la faute à Love Story, pour
moi. Ouais, c'est Love Story.
Ça, c'est parti. Voilà,
les choses ont été
braves. C'est la piscine.
C'est à ce moment.
Exactement.
Love Story, ça a tout déréglé, moi, je le dis.
Ouais, je pense à la piscine, en plus.
Luana et son corps.
En fait, c'est la faute à cette société qui est dirigée par des hommes vieux, misogynes. Tu vois, il y a une poignée d'hommes, là. Quand tu vas dans l'histoire de l'humanité ou même de la société actuelle capitaliste, c'est une poignée d'hommes, hein, des milliardaires qui, à un moment donné, et qui ont créé d'autres... Enfin, qui sont agrandis avec le temps et qui ont généré d'autres milliardaires, tu vois. Parce qu'en réalité, l'hypersexualisation, le sexe, c'est un business. Et il ne faut pas oublier que l'industrie du porno est le business le plus lucratif au monde.
140 milliards.
Voilà. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que même dans nos codes au quotidien... C'est des codes de cette industrie, en vérité. Mmh. C'est pour ça qu'on vit dans ce bouleversement. Et aujourd'hui, même carrément, c'est pour ça que même l'amour a tendance à être moins présent entre des hommes et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, même, c'est un luxe d'être avec quelqu'un avec qui on est connecté, pour reprendre tes termes. C'est un luxe d'être avec quelqu'un avec qui tu te dis, mais là, on est connecté, on est une équipe.
C'est comme si c'était un anti-business.
Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est bizarre. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut arriver à combattre cette injonction, en fait. Parce qu'elle est là, tu vois. Quand avec Barbeux, on fait l'émission sur qui va sortir vendredi d'ailleurs, avec Princesse Erika, où on parle de le rôle de la femme dans l'industrie de la musique et on parle d'hypersexualisation, t'en vois qu'ils sont offusqués parce qu'en fait, en vérité vraie, tu te rends même pas compte que t'es sous le coup d'un business. Et en plus, des hommes en plus. Hein,
dans les films porno, c'est vrai que comme on s'est beaucoup calé dessus, tu verras jamais un acteur porno regarder sa partenaire et lui dire « Comment tu vas ? Est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que... voilà. » Et on s'est tellement calé dessus que même les femmes, même les jeunes femmes surtout, quand elles sont dans leur première relation sexuelle, elles vont pas oser dire non parce que du coup, dans les films porno, ça casse un peu l'ambiance. On voit jamais une femme dire non. On voit jamais un homme se dire que écoute, est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que tu veux que je te masse ? Et il n'y a pas ce qu'on appelle l'aftercare. Enfin, après le sexe, se caresser, tout ça. Et c'est terrible, et je suis d'accord avec toi, en fait.
Parce que... Les amis, le temps passe tellement vite, le sujet est vaste, et du coup, les auditeurs et nous-mêmes allons pouvoir prolonger à la fin de l'émission. Mmh. Mais juste, on va faire un petit tour avec le mot de la fin. Et ta question, tu la poseras en dernier pour que les auditeurs puissent y répondre chacun de leur côté. Autour d'un thé. On n'y répondra pas, mais tu vas la poser. Booba, le mot de la fin.
Le mot de la fin. Oh là, j'ai tellement de mots de la fin. J'ai écrit tellement de choses. Parce que vous m'avez tellement inspiré. Je dirais juste que je vais le dire à la fin.
Ok.
Avant Barberu.
Elvira.
Alors, beaucoup d'amour, en fait. Juste ça. De l'amour, de la compréhension. Un espace d'écoute, un espace d'accueil.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, parce que moi, je suis une ancienne. Donc, Elvira Douala avec deux L. Voilà.
Ok, merci Elvira. À toi, Florinda.
Moi, je dirais, apprenez à vous connaître et développez votre intuition pour pouvoir faire en sorte de créer une relation avec vous, puis avec les autres qui soient que bonnes pour vous.
Voilà. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Florinda ?
Sur LinkedIn, au nom de Florinda avec un Y, Ngomalawo.
Voilà. Merci, on mettra ça en bio. Merci. Les questions qui vont bouleverser les gens chez eux et pas ici. Hein. Donc personne ne répondra à vos questions.
Ok.
Bon. Attends, tu commences.
Je t'en prie, vas-y, je t'en prie.
Moi, c'est juste une question très simple.
Ça commence mal.
Chauffez vos bouilloires.
Est-ce qu'aujourd'hui, on préfère pas les mortiers aux feux d'artifice?
C'est bien. C'est très poétique sa question. Magnifique. Bon,
Est-ce que pour que les auditeurs puissent y répondre chez eux, juste ta pensée très rapidement,
très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, y a ma fille. Là, je peux pas trop détailler. Mais est-ce que vous préférez pas les mortiers, d'accord? Donc, ouais. Les gens imagineront au feu d'artifice.
Ah ouais, ok.
Par rapport à l'amour.
Ok, ça marche. Ok, Bouba.
Non, moi je dirais juste que je pense que tout être humain est en quête d'équilibre. Et moi je pense vraiment que. J'oublie ce que je voulais dire, mais. Voilà, l'amour véritable existe. Et il faut arriver à se mettre debout face à l'injonction, là. Tu vois, l'injonction et tout ce. Comment dire, tout ce business ambiant dont on est les objets.
Tu avais une question pour les auditeurs? Tu l'as oublié?
Ma question, en fait, elle est moins. Enfin, c'est très poétique ce que tu as dit. Hein, parce que les mortiers, c'est des petits feux d'artifice, et les feux d'artifice, c'est des grands feux d'artifice. Ouais. Moi, je dirais que dans les familles, qui transmet à qui? C'est-à-dire par rapport à la sexualité. C'est qui? C'est le papa au garçon, ou la maman aux filles, ou ça peut être l'inverse.
Ou les frères et sœurs.
Voilà, qui transmet à qui? Parce qu'en réalité, on est dans. Je rejoins ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans cette émission. C'est tabou. Mais qui transmet à qui? Et surtout, nous, les hommes, qui nous transmet quoi? On grandit, industrie très lucrative face à nous. Nous, on grandit, on ne nous dit rien. On s'auto-éduque.
Merci les garçons, merci à vous Florinda Elvira d'avoir accepté cette invitation. On remercie Mon Paris FM de nous accueillir. C'était la dernière de la saison, on se retrouve en septembre. Et en attendant, chauffez vos tasses de thé et reprenez tous nos échanges que vous retrouverez sur toutes les plateformes. À bientôt, ciao.
Merci.
Paris FM.